France Inter, le 18-20.
Une semaine en France, en compagnie ce soir d'un homme qui, depuis un demi-siècle, s'interroge sur la meilleure façon d'enseigner et de transmettre des connaissances aux enfants afin de leur permettre de préparer leur avenir. Philippe Mérieux a été tour à tour enseignant, chercheur, directeur d'IUFM, conseiller de ministre, chroniqueur, professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Lyon. À plus de 70 ans, il nous revient avec un livre plus personnel que les précédents. Son titre, « Ce que l'école peut encore pour la démocratie », c'est aux éditions Autrement. Nous allons en parler longuement avec lui alors que les élèves ont fait leur rentrée mardi et qu'on s'interroge sur le monde de demain, celui de l'après-Covid. Également au sommaire de cette émission préparée par Irène Menem et réalisée par Stéphane Combe, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, et les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, à l'occasion des Journées nationales d'action contre l'illettrisme la semaine prochaine, on entendra une femme qui a attendu d'avoir 50 ans pour savoir lire.
Toutes les notes que j'ai prises là, dans ma vie passée, je ne pouvais pas les faire. Même un petit courrier, même trois fois rien pour écrire à la maîtresse de mes enfants. Mais tiens, ma fille, elle ne sera pas là à l'école. Eh bien, je ne pouvais pas.
Et maintenant, elle peut, preuve qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. À 19h, le journal de Frédéric Barrère. À 19h20, au téléphone sonne, on reviendra sur les agressions dont sont victimes les maires. On se demandera pourquoi ils sont pris pour cible par certains administrés, ce qu'il y aurait lieu de faire pour y remédier. Est-ce que cela dit de la citoyenneté et de la démocratie, justement? Vous pouvez nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes qui attendent vos appels. Merci à Antoine Gomez, Ronan Mahé, Stéphane Beaujat, la technique, et à notre stagiaire Mathieu Bellini pour la page web.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Philippe Mérieux.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous en cette semaine de rentrée scolaire si particulière. Une rentrée post-confinement. Certains élèves n'étaient pas retournés en classe depuis des mois. Alors des enfants privés d'école comme ça pendant 2 ou 3 mois supplémentaires, hein, j'ajoute ça aux vacances, est-ce que c'est grave Philippe Mérieux ou est-ce que c'est une péripétie dont ils se remettront?
Je pense que pour beaucoup d'entre eux, c'est un peu difficile à vivre et il va falloir qu'ils se reconstruisent après cette période, pour certains de solitude, pour d'autres de rencontres de difficultés personnelles, pour d'autres d'arrêt du travail scolaire. Et cette reconstruction va prendre du temps. Je pense que beaucoup d'entre eux se remettront fort heureusement, mais il faudra les aider à se reconstruire, les aider à rattraper un retard scolaire et les aider à aussi vivre dans ce monde un peu différent et très anxiogène dans lequel ils se trouvent aujourd'hui.
Vous pensez que, par exemple, pour des enfants retournés à l'école masqués, enfin ça c'est pour les plus grands, ça peut être quelque chose, ben je ne vais pas dire traumatisant, mais un souci quand même.
Inquiétant, sans aucun inquiétant. Doute inquiétant. C'est inquiétant pour les adultes, ça l'est évidemment pour les adolescents. Peut-être moins qu'on ne le dit, ils sont capables de s'extraire assez facilement de ces situations. Mais quand même, ça va rendre très difficile un certain nombre d'activités en classe. Des activités de coopération, des activités sportives, certaines activités aussi à l'école maternelle et primaire vont être rendues beaucoup plus complexes. Et tout ce qui crée du commun dans la classe, toute la communication qui fait que les élèves ne sont pas là individuellement juxtaposés, posés les uns à côté des autres pour écouter le maître, mais travaillent ensemble, est rendu un peu plus difficile par cette situation sanitaire, alors qu'ils en ont, me semble-t-il, de plus en plus besoin.
Ça va compliquer la vie des profs, forcément.
Oui, je pense que ça va compliquer la vie des enseignants, d'autant plus que ils vont avoir un double problème à régler, un problème de retard scolaire avec des grandes inégalités. Certains enfants ont progressé pendant le confinement et ont progressé beaucoup. On sait que certains, très autonomes, très capables de travailler seuls, ont lu des tas de livres, ont écrit des tas de choses, alors que d'autres ont décroché très tôt et sont restés quasiment 6 mois sans contact scolaire. Donc les inégalités sont énormes et il va falloir gérer cela. Et puis, il faut gérer cette insécurité psychique dont il ne faut pas, je pense, faire trop l'économie dans l'accompagnement de ces enfants au cours de cette rentrée.
Alors, je voudrais vous faire écouter, Philippe Mérieux, un témoignage justement à propos de ces inégalités qui ont pu se creuser pendant la période du confinement. C'est un témoignage qui a été recueilli par Alexis Morel. Témoignage d'une famille qui, elle, a décroché, une famille de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Eva, Marlowe, le Séguis n'ont pas pu suivre. Le papa était au travail. La maman est tombée malade et puis elle n'avait pas le matériel adéquat. Les enfants n'ont pas réussi à suivre l'école à distance.
Non, on n'a pas travaillé. Au début, on a vraiment fait un tout petit peu. Moi, j'ai fait la première et la deuxième guerre, sinon après, le reste, non.
Qu'est-ce qui manquait, en fait, ici?
Une maîtresse.
Pour moi, l'école, c'est un petit travail. C'est comme si le petit travail, il était fermé pour toujours. Je devais faire le petit travail, mais je ne l'ai pas fait.
Et pourquoi ?
Parce que je préfère l'école que de travailler à la maison, parce qu'il y a du bruit. Quand les maîtres ils te donnent du travail, tu peux pas le faire tout seul.
En fait, c'est comme si on est sur un bateau et puis on dérive, dépassé, ouais. J'ai pas pu cadrer comme le professeur. J'avais déjà trop pris de retard. Donc du coup, bah, j'ai laissé tomber, hein.
On a besoin de matériel et ça va coûter de l'argent à maman.
Mon ordinateur était en panne. Pour recevoir les devoirs, j'avais que moyen, c'est mon portable. Comme c'est tout petit, donc c'est pas vraiment évident de voir. Et justement, j'ai même pas pu renvoyer un seul devoir.
Et j'ai surtout peur d'avoir oublié le français parce que je me souviens plus du tout des choses de CM2. La différence entre le passé simple et le passé composé, et voilà.
Je me demande est-ce qu'ils pourront rattraper tout ça. J'ai gardé tous les devoirs. Je vais essayer de tenter de reprendre tout ça, mais ce serait bien que même les professeurs reprennent aussi un peu.
Une réaction à ce témoignage, Philippe Mérieux ?
Oui, un témoignage très émouvant, je trouve, avec des termes très forts. Il manquait une maîtresse, le petit travail était fermé, l'école était fermée. Ça me semble extrêmement important. Beaucoup d'enfants ont vécu cette période comme une période d'isolement, comme une période de rupture avec cette interaction, avec cette présence symbolique dans un lieu commun où un maître, une maîtresse, transmet du savoir et fait partager les connaissances. Cette idée du partage qui est consubstantielle à l'école républicaine, je pense qu'on la sous-estime trop et qu'on croit trop que une juxtaposition d'élèves devant des ordinateurs peut se substituer à ce partage vivant, en présentiel, dans une classe, autour d'un enseignant.
Alors, il a été question de rattrapage. En tout cas, il y a eu des vacances apprenantes. J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé de ces vacances apprenantes.
Moi, je crois que toutes les vacances doivent être apprenantes.
Elles
doivent être
même.
Apprenantes parce que on fait des herbiers, parce que on fait des cabanes, et qu'en faisant des cabanes, on peut faire de la géométrie, parce que avec ses parents, si on a la chance de pouvoir aller visiter un musée, on apprend des tas de choses. Alors après, il y a eu des vacances dans lesquelles on a donné à des élèves en difficulté ou en retard des cours de français, de mathématiques. Bon, je n'y suis pas hostile. Je crois qu'il va falloir être convaincu que nous n'avons pas pour autant fait l'essentiel du travail en termes de rattrapage. Là, maintenant, il faut ce que nous appelons, nous, une pédagogie différenciée, adaptée à chaque élève. Il faut développer l'entraide entre les élèves, entre les plus âgés et les plus jeunes, entre ceux qui ont avancé et les autres. Occasion extraordinaire de développer l'entraide. L'entraide, c'est un outil formidable parce que celui qui aide progresse autant, si c'est pas plus, que celui qui est aidé. Alors oui, nous avons besoin de cette pédagogie-là, de cette pédagogie de la solidarité, et je pense que si on la met en œuvre, on peut à la fois rattraper du retard et réincarner des valeurs dont les enfants ont besoin.
Cette pédagogie de la solidarité pour laquelle vous avez toujours plaidé, Philippe Mérieux, on en arrive donc maintenant à ce livre que vous publiez aux éditions Autrement, ce que l'école peut encore pour la démocratie, avec ce sous-titre « Deux ou trois choses que je sais peut-être de l'éducation et de la pédagogie ». Qu'est-ce qui vous arrive là ? Vous la jouez modeste, hein, Philippe Mérieux ?
Ce livre est un livre en grande partie sur le danger des certitudes. Je m'inquiète pour la démocratie parce qu'elle est menacée. Elle est menacée par ceux et celles qui croient tout savoir, qui sont enfermés dans les dogmes et qui, au nom de leurs dogmes, de leur idéologie, sont capables de détruire le monde. On l'a entendu tout à l'heure, hein, nous avons vécu cette semaine l'ouverture du procès des tueries de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. On peut rappeler à cette occasion le caractère complètement mortifère de ces certitudes qui désignent des boucs émissaires, qui séparent les humains entre mécréants et élus, qui autorisent n'importe quelle folie au nom de la conviction qu'on est dans le vrai, qu'on est dans le vrai, qu'on est dans le vrai, et que voilà. Et je pense qu'il y a là une vraie menace. Je pense que pour nos enfants, il y a besoin aujourd'hui de réintroduire, au-delà du désir de savoir, le désir d'apprendre. Et je distingue vraiment les deux. Le savoir, c'est ce qui comble, on sait, puis on sait, ça y est, c'est fini. Apprendre, c'est chercher, c'est ne jamais se satisfaire de ce qu'on a trouvé, c'est s'informer, c'est pas se précipiter sur la première information qui vient et en faire un dogme au nom duquel on va trancher de tout et pouvoir basculer éventuellement dans la violence.
Et l'école ne prend pas cette voie-là, Philippe ?
Si, je pense que beaucoup d'enseignants prennent cette voie-là et c'est bien, mais je crois qu'on ne le fait pas avec suffisamment de clarté à la fois politique, philosophique, et que on ne met pas suffisamment l'accent sur le fait que il y a à l'école une recherche nécessaire d'une attitude qui est une attitude que nous pourrions appeler critique, de doute, qui est celle qui nous fait chercher la vérité ensemble. La démocratie, c'est le fait de chercher la vérité ensemble, c'est respecter les singularités, aider chacun à penser par lui-même et chercher ensemble à construire du commun.
Il y a un côté pessimiste dans ce que vous écrivez. Vous dites « l'institution scolaire semble avoir perdu le cap, les managers y font la loi, la pédagogie est en berne ». Ça, ce sont vos termes. Il y a beaucoup de choses que vous critiquez, la formation initiale des enseignants, la formation continue, qui est totalement sinistrée. Vous avez l'air quand même un peu désespéré, non ?
Je suis pas désespéré du tout, parce que je vois et je travaille avec beaucoup de collègues enseignants qui sont très toniques, très dynamiques et qui ont envie de faire des choses formidables. Et il y a des livres qui paraissent à cette rentrée qui témoigne de cela. Mais je trouve que notre institution est plus une institution mécanique attachée se reproduire à l'identique qu'une institution portée par des missions, portée par une vocation, portée par un vrai projet d'émancipation. Et je trouve que c'est ce projet-là qu'il nous faut donner à la fois aux enseignants et faire partager avec les parents, aux élèves. Et je crois que c'est possible, et je crois paradoxalement que la crise sanitaire que nous vivons, parce qu'elle nous montre à la fois notre fragilité et la nécessité de notre solidarité, nous montre plus que jamais la nécessité d'une véritable éducation scolaire émancipatrice.
Alors on va poursuivre évidemment la réflexion sur tous ces sujets, Philippe Mérieux, mais on va passer tout d'abord, comme tous les vendredis, à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Anne-Cécile Perrin.
Ça fait du bien de revenir,
ça fait trop longtemps là, ouais, six mois de non-lycée, genre 6 mois sans nos potes, six mois sans rien, ouais. C'est trop bien là, on est trop contents.
Les vacances c'était cool, mais en fait si on reste trop longtemps en vacances, c'est moins cool.
La rentrée enfin pour les élèves après le confinement et la vraie fausse reprise du mois de juin. Une rentrée masquée pour les plus grands, avec de multiples précautions sanitaires que même les plus petits ont parfaitement intégrées.
Ne mettez pas la main dans la bouche.
Ensemble,
lavez les mains.
Continuons d'appliquer les gestes barrières.
Mettez du gel hydroalcoolique quand on est à la garderie. Et puis ben voilà.
C'est bien compris ?
Voilà, il n'y a plus qu'à espérer que le virus nous laisse tranquille.
Et on a appris il y a quelques minutes qu'une intense fusillade avait éclaté ce matin, boulevard Richard Lenoir.
Ouverture cette semaine à Paris du procès des attentats de janvier 2015. Charlie Hebdo, Montrouge, l'hypercachère, les auteurs du carnage ne sont plus de ce monde.
Je le dis très franchement, j'attends pas grand-chose du procès.
Maryse Wolinski, la veuve du dessinateur Georges Wolinski.
Moi, les questions qui m'importent, c'est pourquoi cet attentat a-t-il eu lieu ? Pourquoi on a lâché dans la nature les Kouachi ? Pourquoi on a levé la surveillance de Charlie Hebdo ? Mais le président peut me répondre, Madame Wolinski, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Ne pas se tromper de procès, c'est aussi ce que dit maître Marie Dosé, l'avocate d'un des accusés.
Ceux qui sont responsables de ces attentats sont morts. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. On doit entendre et supporter le fait que les accusés ne savaient rien du dessein criminel précis des auteurs de ces attentats.
En attendant, Charlie Hebdo reste Charlie et republie les caricatures de Mahomet. Depuis Beyrouth, Emmanuel Macron réaffirme le droit au blasphème.
Il y a aussi en France une liberté de blasphémer, qui est attachée à la liberté de conscience. La caricature n'est pas un discours de haine.
Comment sortir de la crise économique provoquée par la crise sanitaire ? Réponse, un plan de relance à 100 milliards d'euros.
Ce que nous voulons faire, c'est réinjecter massivement de l'argent dans l'économie.
Le Premier ministre Jean Castex.
Si les entreprises repartent, il y a moins de chômage, il y a plus d'emplois. C'est aussi simple que cela.
Deux revenants cette semaine. Le premier, c'est François Bayrou qui devient haut commissaire au plan.
C'est le choix du recasage d'un ex-ministre recalé pour cause d'affaires.
Nommé malgré sa mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs au Parlement européen, dit Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, mais François Bayrou a réponse à tout.
Par chance, je ne suis pas dans l'exécutif. Et de surcroît, j'ai choisi d'exercer cette fonction gratuitement, sans rémunération.
L'autre revenant de la semaine, c'est Lionel Jospin qui reprend la parole. 18 ans après sa défaite à la présidentielle, pour celle de 2022, il pense que la gauche plurielle, celle qu'il avait mis sur les rails dans son gouvernement, a ses chances, mais à une condition.
Je pense que les ADN sont relativement compatibles, et que la question principale sera d'accorder les égaux.
Et là, il y a effectivement du boulot.
Et je cours pas après la gloire, c'est fait.
Jean-Luc Mélenchon, dimanche sur France Inter.
Je ne cours pas après la notoriété, c'est fait. Je ne cours pas après le leadership, c'est fait. J'ai pas besoin de me préparer, j'ai déjà fait 2 présidentielles.
Reste enfin à gagner, les Lyonnaises, elles savent y faire. Elles ont décroché dimanche leur 7e Ligue des champions, pardon, des championnes, l'attaquante Eugénie Le Sommer.
C'est que du bonheur. On nous dit souvent, vous en avez pas marre de gagner. Non, même si c'est la 7e, la 5e de suite, l'OL, on est là et on va encore rester longtemps en haut.
Et encore un grand merci à Anne-Cécile Perrin pour ce mix de l'actualité. Une semaine en France, toujours en compagnie de Philippe Mérieux, chercheur en sciences de l'éducation et militant en pédagogie. C'est ce que vous avez marqué sur votre compte Twitter, Philippe Mérieux. Les Lyonnaises, ça c'était pour vous, puisque vous êtes Lyonnais.
Oui, absolument.
Voilà. Une petite réaction sinon à ce qu'on a entendu, parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a de la politique notamment. Lionel Jospin, là, vous avez redressé la tête. Ça vous a rappelé des souvenirs?
Oui, d'une part, parce que je trouve qu'il a été un très grand ministre de l'éducation nationale et que la loi qu'il a fait voter en 1989 est sans doute une des meilleures lois que nous ayons eues, des lois d'orientation sur l'éducation nationale, malheureusement abandonnées au gré des alternances progressivement, puisque nous faisons et défaisons en permanence en France les lois concernant l'éducation chaque fois qu'un ministre change. Un mot peut-être sur un terme qui a été employé et dont je voudrais qu'on se débarrasse, c'est le terme de geste barrière. Moi, j'aimerais qu'on n'utilise pas avec les enfants ce mot de geste barrière, cette expression, qu'on parle de geste protecteur. Les gestes ne sont pas des barrières, on ne demande pas de créer des barrières entre les gens, on demande aux gens de se protéger, de protéger les autres. Et peut-être peut-on à cette occasion-là retrouver, après tout, je l'ai vu dans certaines écoles récemment, la possibilité du langage des sourds, par exemple, de se faire des signes. Il y a toute une série de choses qu'on peut inventer sans mettre des barrières, mais au contraire en créant du lien entre les enfants.
Vous avez raison, geste protecteur. On s'est déjà débarrassé de la distanciation sociale. C'est vrai que il faut qu'on continue à réfléchir aux mots que nous employons. Peut-être un petit mot de politique, Philippe Mérieux, parce que vous avez été engagé, vous avez été conseiller régional.
Oui, et vice-président de la région Rhône-Alpes, délégué à la formation,
voilà,
qui était
tête de liste des Verts à l'époque.
Oui.
Que la ville soit dirigée par un Vert aujourd'hui, ça vous réjouit?
Oui, bien sûr. Oui, c'est une belle victoire et je suis très heureux que les écologistes qui incarnent précisément cette solidarité avec la planète et cette solidarité entre les humains puissent accéder aux responsabilités. Alors, maintenant, il faut voir pour l'avenir. Est-ce que nous serons capables, comme l'a dit Lionel Jospin, de faire taire les égaux pour construire un arc-en-ciel susceptible
de... Va être difficile de trouver un candidat commun pour la gauche dite plurielle. Enfin, ça se prend comme ça qu'on disait il y a 20 ans.
Je ne sais pas. Il y a quand même eu de très belles surprises au moment des municipales. Le travail de Michel Rubirola à Marseille, celui d'Éric Piolle, déjà depuis 2 mandats à Grenoble, montre qu'on peut, sur des projets précis, faire se rencontrer des gens qui ont des finalités communes et qui portent une vision du monde dans laquelle beaucoup de Français peuvent se retrouver.
Ce matin, Emmanuel Macron est allé prononcer un discours au Panthéon pour les 150 ans de la République. Enfin, il a choisi comme référence, lui, le début de la Troisième République.
Oui, c'est curieux d'ailleurs, parce que voilà. C'est 1792,
tout
la Première République.
Tout le monde n'a pas le même point de repère. Mais bon, il a choisi celui-là. Et à cette occasion, il a dit la République est fragile et précaire. Il a promis une loi contre les séparatismes. Vous comprenez ce...
Oui, j'attends de voir, comme tous les Français, ce que signifie cette loi contre les séparatismes. Mais c'est vrai que la République est fragile. C'est vrai que la République et la démocratie sont fragiles et que on a toujours la tentation de croire que quand les institutions sont faites, le problème est résolu. Alors que les institutions doivent être en permanence réinventées, habitées par les humains, qui leur donnent du sens et qui s'investissent. Et je crois qu'on a toujours intérêt à rappeler que l'institution, l'institué, ne nous garantit pas qu'on va vers les finalités tant de la République que de la démocratie.
Et l'éducation a évidemment un rôle fondamental, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Oui, l'éducation a un rôle fondamental, c'est la raison pour laquelle je regrette quand même, on l'a entendu dans le rappel de l'actualité, que dans le fameux plan d'urgence, il y ait très peu de choses.
Sur
oui. Les questions d'éducation. On relance les internats d'excellence, ce qui peut être une bonne chose pour certains enfants. On met l'augmentation de la prime de rentrée, mais pas vraiment de signal fort en direction des enseignants qui sont quand même, me semble-t-il, aujourd'hui un peu inquiets sur le statut qui leur est donné et sur le sens de leur mission et de leur projet éducatif.
Sur la politique de Jean-Michel Blanquer, le dédoublement des classes de CP en zone d'éducation prioritaire, c'est plutôt bien ça, non Philippe Mérieux?
Oui, bien sûr. Je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut, en zone d'éducation prioritaire, avoir des petits effectifs, mais il ne faut pas considérer que c'est pour solde de tout compte. Dans les réseaux d'éducation prioritaire, il faut rappeler que un élève de 6e, par exemple, coûte encore beaucoup moins cher qu'un élève de 6e de centre-ville. Parce que dans un collège de réseau d'éducation prioritaire, il y a des vacataires, il y a des contractuels, il y a des cours qui ne sont pas assurés, il n'y a pas beaucoup d'options. Et si on prend non pas les dotations supplémentaires, mais la masse salariale, le budget consolidé du collège et qu'on divise par le nombre d'élèves, on s'aperçoit que l'élève de centre-ville, eh ben, il coûte plus cher aux contribuables. Et que l'étudiant ou l'élève de classe préparatoire aux grandes écoles coûte beaucoup plus cher que l'étudiant d'université et infiniment plus cher que l'étudiant, que l'élève de zone d'éducation prioritaire. Donc en matière de justice scolaire et sociale, on a encore quelques progrès à faire, je crois.
Le bac en contrôle continu, c'est une bonne idée ?
Oui, ça peut être une bonne idée, mais ce qui a été proposé par le ministre, à mes yeux, c'est pas complètement du contrôle continu, c'est plutôt un examen un peu permanent. On découpe l'examen en une série d'épreuves. Moi, je préférerais qu'on soit dans une pédagogie que je tente de définir dans mon livre, que j'appelle la pédagogie du chef-d'œuvre, qui est une pédagogie où on met les élèves en face de la nécessité de construire et de créer quelque chose de très exigeant, qu'ils présentent devant un jury, par exemple, comme le faisait déjà Célestin Freinet avec ses enfants il y a 50 ans, et qui les amène à se défoncer, à s'exaucer au-dessus d'eux-mêmes, et pas simplement à bachoter de temps en temps pour réussir des épreuves, chose qui peut être utile dans la formation personnelle, il faut surmonter son stress, mais qui ne permet pas véritablement d'approfondir jusqu'au bout et d'aller dans cette exigence dont je pense que le travail de l'enseignant, c'est de la faire intérioriser par l'élève. Nous avons besoin que nos élèves deviennent exigeants avec eux-mêmes et que quand nous ne sommes plus là, eh bien, ils continuent à être exigeants avec eux-mêmes.
Vous rendez hommage à Freinet et à pas mal d'autres pédagogues hein, dans votre livre, Philippe Mérieux. Puis vous revenez aussi sur vous, parce que vous êtes pris des coups dans les années 80. Enfin, je sais pas, ça fait peut-être partie du débat général sur l'éducation. Vous dites, s'il est une accusation qui m'a poursuivi pendant des années, c'est celle de pédagogiste indécrottable. Et vous tenez à vous démarquer de
oui,
ce qualificatif.
Il y a un débat français, vous savez, Durkheim disait déjà, il y a plus d'un siècle, parler du vieux préjugé français contre la pédagogie. La France aime pas bien les pédagogues, en particulier une certaine catégorie de Français, parce que on pense qu'il y a une sorte de progression en sens inverse. Si on s'intéresse aux enfants, si on s'intéresse à la manière dont ils apprennent, c'est qu'on s'intéresse pas au savoir. Et moi, je ne comprends pas cette manière de penser. Je pense qu'il faut s'intéresser à la fois au savoir et aux enfants, et à la rencontre entre les savoirs et les enfants. C'est cette rencontre que nous devons organiser en donnant à chacun le goût d'apprendre. Le goût d'apprendre, il n'est pas inné, il n'est pas dans les gènes, il n'est pas dans les chromosomes. Hein. Le goût d'apprendre, il se construit dans une relation curieuse avec le monde que certains ont la chance d'avoir dans leur famille, mais que tous n'ont pas la chance d'avoir socialement et qu'il faut que l'école réactive en permanence, donner ce plaisir d'apprendre. Il n'y a rien de mieux, je crois, pour revivifier une démocratie exigeante.
Éduquer, c'est tout à la fois faire preuve d'un volontarisme sans faille et savoir lâcher prise pour que l'autre décide lui-même. C'est ce que vous écrivez, Philippe Mérieux.
Oui, parce que...
Plus facile à dire qu'à faire.
Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Volontarisme, parce que ce qui a fait progresser l'éducation en France, la pédagogie, c'est quand des gens se sont dit, ceux-là, ils étaient inéducables, on les considérait comme inéducables, et maintenant, on va les éduquer quand même. C'est Itard avec Victor de l'Aveyron, le petit sauvage qu'on avait trouvé. C'est des instits qui s'occupent des classes de perf et qui se disent ces gamins-là qui sont complètement ch'tarbés, on va quand même leur apprendre. Ces gens-là qui inventent d'ailleurs des méthodes qui seront utilisées ensuite au bénéfice de tout le monde. Donc il faut ce volontarisme, il faut ce que j'appelle le principe d'éducabilité. En même temps, éduquer, c'est pas formater, c'est pas fabriquer quelqu'un, c'est le mettre sur une rampe de lancement, c'est le nourrir d'une culture pour qu'il puisse penser par lui-même, et ça nous nous échappe à un moment donné. Il faut accepter que ça nous échappe, je crois.
Et on va voir comment vous en êtes arrivé à cette conclusion. On va parler de vous dans un instant, Philippe Mérieux, de votre histoire, de votre parcours. Le temps d'écouter Alain Souchon.
On se ramène les cheveux vers l'avant, en les lavant. Faut que tout soit un peu comme avant. Regardez les photos le soir, mon voyage en Angleterre me met un petit cafard. Le train vient s'allonger d'une manière un peu intime le long du bateau à quai à Calais maritime. Là c'est pas New Haven, on voyait les falaises, on sautait sur le gangway, à nous les petites anglaises. On se ramène les cheveux vers l'avant en les lavant pour que tout soit un peu comme avant. Fille de la maison, Deborah Valentine, sur le piano du salon, jouait du ragtime. Je voyais ses cheveux bouger, balancés par le rag, et ça me faisait un effet vague. On se ramène les cheveux vers l'avant, en les lavant, pour que tout soit un peu comme avant. Là on mange des fish and chips en disant pussy, y avait la reine d'Angleterre aussi. Sur celle-là c'est le jeune Mick sur le quai de la gare qui regarde les disques de l'autre Lascar. Là je prends l'air malheureux pour voir, je croyais que j'avais les yeux bleus. Le soir, on se ramène les cheveux vers l'avant, en les lavant, pour que tout soit un peu comme avant. On se ramène les cheveux vers l'avant, en les lavant, pour que tout soit un peu comme avant.
On se ramène les cheveux. Alain Souchon, choix musical signé Djoubaka.
France Inter. Une semaine en France.
Toujours en compagnie de Philippe Mérieux qui publie aux éditions Autrement ce que l'école peut encore pour la démocratie. On va parler de vous maintenant, Philippe Mérieux, bah si, de votre parcours. Vous êtes né, vous avez grandi à Alès. Vos parents, vous l'écrivez dans votre livre, c'est pour ça que je me permets d'en parler, étaient pétainistes. Et vous dites, c'est pas pour rien qu'ils m'ont appelé Philippe.
Oui, dans les années 45-50, ceux qui appelaient leurs enfants Philippe, c'était quand même en référence extrêmement claire au maréchal. Je n'ai pas honte, c'est vrai que c'est un choix que je n'ai pas fait et que je n'aurais sans doute pas fait, mais que j'assume.
Voilà, ils étaient catholiques traditionnalistes, militants poujadistes, lecteurs de minutes. Mais à l'aumônerie du lycée, c'est ce que vous racontez, il y avait un prêtre ouvrier et là, eh ben, tout a basculé.
Oui,
le petit Philippe Mérieux, il a changé de bord.
Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses un peu compliquées à comprendre pour les jeunes générations, mais c'est vrai que avant 68, en province, nous vivions quand même dans un monde extrêmement étriqué, intellectuellement, psychologiquement, moralement. Et moi, j'ai découvert, alors grâce à ce lieu un peu extravagant qui était l'aumônerie du lycée, où mes parents croyaient que j'allais être endoctriné dans la foi catholique traditionnelle, j'ai découvert la théologie de la libération, j'ai découvert Karl Marx, j'ai découvert des tas de choses. On a fait des célébrations
avec les protestants. Vous êtes devenu catho de gauche.
Je suis devenu un peu catho de gauche, oui, à ce moment-là, oui, sans aucun doute. Oui.
Militant à la GEC.
Oui.
Et puis après, vous êtes monté à Paris, comme on dit, pour faire hippocagne à Henri IV, carrément.
Je vois que vous savez tout.
Oui, oui. Vous êtes arrivé à Paris, et quelques mois plus tard, c'était mai 68.
Oui, absolument. Absolument, et j'ai vécu mes 68 comme un moment de travail extrêmement intense. Au lycée Henri IV, mais aussi à Jussieu où nous allions, nous passions notre temps à écrire des réformes de l'éducation, du système de bourse, etc. Je l'ai pas du tout vécu à l'Odéon, dans ce caractère un peu débridé qu'on décrit parfois, mais comme un moment de refonte et de travail où on se mettait ensemble autour d'une table pour tenter de repenser nos institutions. Alors on était très naïfs et on ne voyait pas qu'on pouvait être récupéré par ceci, par cela. Mais pour moi, ça a été un moment de travail et un moment extrêmement intense de communication dont je garde un bon souvenir plutôt.
Alors vous avez fait des études de philo, vous êtes devenu enseignant, un petit peu rebelle. D'ailleurs, vous êtes allé enseigner dans un lycée expérimental à Lyon. Vous êtes
un collège.
Ouais. Vous êtes devenu professeur à l'université de Lyon, chercheur en sciences de l'éducation, avec Philippe Mérieux, toujours des, si j'ai bien compris, des allers-retours dans les classes, c'est ça, en lycée, en collège, en primaire. Pourquoi? Parce que c'est une façon de pas perdre la main.
Oui, c'est une chose auquel j'ai tenu toute ma vie. C'est de combiner la recherche universitaire avec ses exigences de documentation bibliographique, de participation à des colloques, d'écriture extrêmement précise, avec le contact, si possible, avec des élèves et des élèves en grande difficulté. C'est pour ça que professeur à l'université, je suis allé enseigner en lycée professionnel à Vénissieux, qu'ensuite vice-président de la région, j'ai tenu à animer moi-même des ateliers d'écriture pour les jeunes décrocheurs, et que ça m'a toujours beaucoup nourri, parce que ça m'a ramener aussi à la modestie du praticien par rapport aux ambitions démesurées qu'on peut avoir quand on reste assis dans sa théorie.
Et puis surtout quand on côtoie le pouvoir, parce que vous avez quand même fait partie du Conseil national des programmes, vous avez travaillé avec Claude Alleng, vous avez inspiré certaines réformes, Philippe Mérieux. Je crois qu'une de celles dont vous êtes le plus fier, c'est les TPE,
travaux personnels encadrés qui ont disparu et qui correspondent un petit peu à cette pédagogie du chef-d'œuvre dont je parlais tout à l'heure. C'était cette idée qu'au lycée, les élèves pourraient présenter, à la fois en première, en terminale, des travaux interdisciplinaires qui étaient des dossiers très documentés, encadrés par des enseignants et qui comptaient d'une manière significative pour l'examen. Alors ça a perduré d'une façon un peu amoindrie. Aujourd'hui, ça a disparu. Il faut espérer que dans le cadre de ce que le ministre a appelé le grand oral, on puisse avoir ce type d'exigence, c'est-à-dire qu'on puisse non pas être dans le bachotage et la mémoire, mais dans la construction exigeante d'un travail sur le long terme.
Voilà, ce grand oral dont on parlera un de ces jours aussi sur France Inter. Vous avez travaillé, je le dis, avec Claude Alleng, celui qui voulait dégraisser le mammouth. Ça vous a valu quelques inimitiés?
Oui, enfin, Claude Alleng, ne disons pas du mal de Claude Alleng, on en a beaucoup dit. Il nous a quand même plutôt plantés par ses reculades que par ses bouffonneries, hein, parce que finalement, il a relativement peu réformé l'institution. Il a beaucoup parlé, c'est une sorte de matamore, Claude Alleng. Mais en termes d'action concrète, sur les 49 propositions que nous avions faites en 98 pour la réforme du lycée, il en a utilisé 4 ou 5, et d'une manière extrêmement prudente, et puis les alternances politiques ont eu raison des autres.
Voilà, ça c'est dit. Je disais tout à l'heure qu'il y avait dans votre livre des confidences très personnelles. C'est vrai que, par exemple, vous parlez de votre fille aînée qui est devenue anorexique à l'âge de 10 ans. Vous racontez la difficulté de la situation, qu'il vous arrivait de perdre patience. Vous dites, je ne suis pas fière de ce que j'étais alors. Je regarde aujourd'hui avec effroi mes emportements inexcusables. Ça vous a permis de comprendre que c'est surtout l'enfant qui doit prendre la décision un beau jour de manger, quoi. C'est-à-dire, ça rejoint votre préoccupation pédagogique.
Oui, ça a été un moment très fort, mais qui rejoignait tout ce que j'avais vécu aussi avec des élèves en très grande difficulté. C'est l'idée que je peux tout faire pour que l'enfant fasse, mais que c'est l'enfant qui fait au dernier moment.
C'est lui qui décide. Hein.
Et que j'ai jamais fini d'en faire un peu plus, d'être plus actif, de lui fournir un environnement plus stimulant, de lui donner des outils bien faits, de l'aider et de l'accompagner. Mais tout ça, c'est au service de sa décision. Et de sa décision d'apprendre, de sa décision de grandir, de sa décision de devenir plus autonome et plus libre. Et je me mets au service de sa décision, je ne me mets pas à sa place. C'est Lacan qui disait dans une formule que j'aime bien, si je me mets à la place de l'autre, l'autre, où est-ce qu'il se mettra? Eh bien, je pense qu'il faut que nous fassions tout pour que les enfants grandissent. C'est un pédagogue célèbre Makarenko qui disait « Quand un enfant est malade, soignez le milieu. » Organisez autour de lui tout ce qui sera le plus extraordinaire pour l'aider à grandir, mais ne grandissez pas à sa place, sinon c'est le syndrome de Pinocchio ou de Frankenstein dans le pire des cas.
On va passer à présent à notre rubrique positive, comme tous les vendredis, Philippe Mérieux. Ce sont les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Ce soir, Sandrine, un témoignage à l'occasion des Journées nationales d'action contre l'illettrisme qui auront lieu la semaine prochaine. L'illettrisme à ne pas confondre avec l'analphabétisme qui concerne ceux qui n'ont jamais appris ni à lire ni à écrire et sont près de 800 millions dans le monde. Ce soir, on s'intéresse à ceux qui, ici, en France, ont quitté l'école sans les acquis de base du calcul, de la lecture, de l'écriture, au point d'être confrontés à un véritable handicap dans leur vie quotidienne. On estime que 2,5 millions de personnes seraient concernées dans notre pays. C'est un vrai fléau.
Et on l'ignore parce qu'elle se cache. Difficile de dire qu'on ne sait pas lire ne serait-ce qu'un panneau ou le menu d'un restaurant. Et c'est le cas de cette femme que j'ai rencontrée, excessivement touchante. Aline, pendant des décennies, n'a rien dit, ni à ses enfants, ni à sa famille, ni à ses amis ou collègues de travail, jusqu'en 2013, où là, elle craque et elle pousse la porte d'un centre de formation.
Aline Le Guluche raconte son histoire dans un livre intitulé « J'ai appris à lire à 50 ans ». Elle y détaille son parcours, c'est touchant, c'est courageux. Vous l'avez rencontrée chez elle, à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines.
Sur la table du salon, des lettres manuscrites, des courriers, des factures et sur la chaise, une femme digne.
Toutes les notes que j'ai prises là, dans ma vie passée, je ne pouvais pas les faire. Même un petit courrier, même trois fois rien pour écrire à la maîtresse de mes enfants. Dire, tiens, ma fille, elle ne sera pas là à l'école. Eh bien, je ne pouvais pas.
Retour en arrière.
Lorsque je suis arrivée à l'école, j'avais 6 ans. Une petite fille de paysan, je travaillais déjà à la ferme. Arrivée à l'école, à l'époque, c'était des plumes. Et je ne savais pas tenir une plume, je n'avais jamais vu un livre, jamais écrit sur un cahier. Et je suis tombée sur un enseignant... plus que con, plus que méchant. C'était une torture.
Une torture ?
Ah oui, tourner autour du bac à sable, les mains sur la tête, pendant que les autres y jouaient. Moi, j'avais une pancarte dans le dos et je tournais en rond, comme quoi que j'étais nulle.
Pancarte, c'est marqué nul ?
Bon, peut-être pas nul, mais zéro au moins. Les coups de règle, ouais, c'était ça à l'école. Alors après, forcément, on en a des cicatrices à vie. Hein.
Quel moment vous avez quitté l'école ?
À 15 ans et demi.
Vous êtes partie à l'usine, c'est ça ?
Travail manuel, pas obligé d'écrire.
Vous l'avez dit à... personne.
Non.
Pourquoi, Aline ?
Une grosse dose de honte, donc je préférais faire l'anguille.
Vous avez joué beaucoup.
Et j'ai fait que ça, que de jouer, que de cacher. J'ai bien dû mentir pendant 40 ans. Quand je travaillais en cuisine, ne serait-ce qu'écrire tomate, te et auto, me et a ma, est-ce que c'est bien un M ou est-ce que c'est un N ? Pour moi, c'était très compliqué. Alors souvent, je laissais faire ma camarade pour gagner du temps. J'ai pas mes lunettes, j'ai pas mon stylo. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ?
Comment vous expliquez qu'on n'ose pas ?
Mais c'est normal, on vit dans une société d'intolérance quand même. Tu es allé à l'école, tu as échoué, mais échec, ça fait mal.
Alors, chut, pas un mot et surtout pas aux enfants. Fabrice, il a 40 ans aujourd'hui, il s'en souvient.
Quand je suis arrivé au collège, j'ai vu qu'elle avait des gros problèmes d'écriture. C'était même illisible ce qu'elle écrivait.
Un exemple ?
Quand elle remplissait son carnet de chèques, souvent je me disais, mais merde, c'est dégueulasse quoi. Enfin...
Vous lui avez parlé ?
Non.
Pourquoi non ?
C'est ma maman, alors...
Vous n'osiez pas, peut-être, non ?
Je n'osais pas, c'est même sûr. Je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'elle écrit mal comme un cochon, point barre, quoi. On le voit, mais on n'en parle pas. Pas de bruit.
Alors, à quel moment elle vous l'a dit ? Vous avez su ?
Depuis qu'elle a essayé de reprendre l'école.
Avant rire ?
Non.
Et qu'elle ose écrire un livre en disant, voilà, moi j'ai appris à lire à 50 ans.
Franchement, waouh. Incroyable. Et je l'ai bouffé en 3 jours, je l'ai bouffé, quoi.
Vous êtes ému, là ?
Bah ouais. Elle m'a fait pleurer dans le bouquin. J'ai chialé, toutes ces petites combines, tout ça. Là.
Et ça, vous le saviez pas ?
Non.
Pourquoi ne l'avoir jamais dit à vos enfants ?
Oh, bah non. Parce que théoriquement, je suis un modèle. C'est difficile à dire.
Audrey Colna dirige La Clé, Calcul, Lecture, Écriture, qui organise des formations. Et ce discours, elle le connaît par cœur.
C'est tous les jours. J'ai une dame un jour qui est venue à l'association en me disant « Ça fait 3 ans que je passe devant votre porte parce que c'est une honte. »
Et après la formation ?
C'est une libération.
Exemple ?
Bah, une dame un jour qui arrive avec la larme à l'œil en disant « J'ai enfin pu retirer de l'argent au distributeur automatique. Je ne comprenais pas ce qui était écrit sur l'écran. » Donc voilà, il faut en parler et Et côté pouvoir public, on n'a pas grand-chose. En gros, c'est débrouillez-vous.
Le tilt, reprendre l'école, c'était quoi?
J'étais fatiguée. Quand on ne sait pas bien lire, pas bien écrire, on se fait avoir sur plein de choses. On ne peut pas écrire à notre patron, on ne peut pas écrire aux impôts, on ne peut pas écrire à la sécurité sociale. On ne peut rien faire.
Ça a été dur au début, reprendre les cours?
Oh là 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 là. C'était terrible.
Pourquoi?
Il y avait des gamins de 20 ans. La capuche, le blouson tout fermé, la tête baissée. Mais après, c'est du bonheur. Une belle victoire.
Ah, vous avez un grand sourire.
Mmh. Pour que toutes les personnes emprisonnées par l'illettriste puissent vivre libres.
Emprisonnées, vous avez dit?
Oui, c'est une prison. Enfermées dans notre tête, dans nos douleurs, dans notre souffrance. Emprisonnées. Et j'espère emmener plein de personnes avec moi. Pas de honte, pas de honte.
Est-ce que vous êtes fière aujourd'hui?
Ouais, carrément. Bravo, maman.
Et si quelqu'un vous disait, ta maman, elle a appris à lire et écrire à 50 ans?
Et alors? C'est grave.
J'ai appris à lire à 50 ans. Aline Le Gulluch, sortie de ce livre, Sandrine, le 1er octobre prochain.
Exactement.
Édition Prisma. Il y a aussi un numéro d'information, Illettrisme Info Service. On va le mettre sur le site, peut-être.
Oh, voilà, le 0811-1035. Et puis le programme, bien sûr, de cette semaine d'action sur le site de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme qui l'organise.
Philippe Mérieux, vous écoutiez avec attention ce
Oui,
ce
c'est
témoignage.
Très émouvant. Hein. Moi, je suis très, très ému par cela. Et ça nous met au cœur de la question essentielle du plaisir d'apprendre. Apprendre à écrire, il ne faut pas présenter ça aux enfants comme une sorte d'accumulation d'épreuves insupportables. L'écriture est une libération, on l'entend, cette femme l'explique et le dit admirablement bien. L'écriture, c'est du bonheur. Pouvoir écrire, c'est pouvoir stabiliser sa pensée, c'est pouvoir l'améliorer, c'est pouvoir écrire une lettre d'amour, une lettre d'insulte. Et il faut faire de l'écriture, dès l'école primaire, le lieu de la communication, l'occasion de la communication. C'est ce qu'avait fait Célestin Freinet avec la correspondance scolaire, mais ça avait commencé bien avant lui, ce à quoi il a donné une importance capitale. Faire de l'écriture l'occasion d'échanger avec soi-même et avec les autres, de progresser, de découvrir le monde, c'est fantastique. Et puis, quand même, disons, c'est un peu au niveau anthropologique, écrire, c'est un peu lutter contre la mort aussi. C'est ce qui reste quand on a fini de parler, écrire.
Il y a une très belle anecdote à propos de la correspondance scolaire dans votre livre à la toute fin. Je ne sais pas s'il faut la dévoiler ici. Allez, on va laisser le suspense pour ceux qui liront votre ouvrage, Philippe Mérieux. Ce que l'école peut encore pour la démocratie, ça va rejoindre le téléphone sonne qui va suivre, qui concerne évidemment les agressions contre les maires, mais peut-être aussi contre tous les élus. Hein. Vous qui
Absolument.
Avez été élu régional, vous avez certainement été pris à partie aussi, parfois. Ça concerne quoi, la formation des citoyens? C'est ça qu'on peut dire?
Oui, ça veut dire que l'éducation, c'est pas simplement l'école, c'est les parents, c'est l'école, c'est aussi toutes les associations qui font un travail remarquable. Moi, je préside les CMEA et on travaille beaucoup sur ces questions de la citoyenneté. Il faut que tous en aient conscience que la démocratie, c'est avec nous et par nous que ça passe.
Voilà, ce sera un début de réponse pour notre téléphone sonne de tout à l'heure pour lequel vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000. Merci mille fois, Philippe Mérieux.
Merci à vous.